France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Nice, capitale mondiale de l'océan menacée, ouverture ce matin du sommet de l'ONU, une pluie d'engagements annoncée. Mais seront-ils tenus, à commencer par ce pris par Emmanuel Macron au nom de la France? Nous sommes sur place dans un instant. Tout autre ambiance pour Marine Le Pen. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Entourée des figures de l'extrême droite européenne dans une petite commune du Loiret.
Oui, Victor Orban, Matteo Salvini ou Santiago Abascal à Mormant-sur-Vernisson, petite commune d'une centaine d'habitants, une fête champêtre pour un meeting où les discours anti-immigration et ultra-conservateurs s'enchaînent depuis une heure.
On vous y retrouve dans quelques minutes. Pas de bateau pour Gaza, le navire qui transportait personnalités et un peu d'aide humanitaire, intercepté la nuit dernière par Israël. Ses 12 occupants vont être renvoyés dans leur pays. La France réagit, nous verrons cela. Des prêts immobiliers accordés par des entreprises, nous vous diront comment cela fonctionne, des spéléologues secourus dans l'Isère, le dernier tôt ce matin, et puis Sinner Alcaraz, ont-ils fait plus fort hier en finale de Roland-Garros que les Nadal, Federer et autres Djokovic? Nous poserons la question à notre consultant tennis Paul-Henri Mathieu. À partir de 13h30, la plus grave affaire de viol en série de l'histoire de France n'a pas encore livré tous ses secrets. La juge d'instruction belge qui a contribué à démasquer Dino Scala est notre invitée. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton aborde des toutes petites lignes d'avion. Cette semaine, nous sommes entre Aurillac et Paris.
C'est un aéroport au milieu des champs et au milieu des montagnes. Les passagers qui fréquentent la ligne sont des passagers réguliers, notamment des chefs d'entreprise. Il y a aussi des personnels politiques, les députés, les sénateurs. C'est un peu une ambiance familiale.
Décollage dans trois quarts d'heure. 13h50, c'est la France. Les 24 heures du Mans se déroulent en fin de semaine. Nous nous intéressons aux mots de la région du Mans, le Maine. Ce sera avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Armand Méliès, Les Doors et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette avec nous.
France Inter.
Avant d'aller à Nice pour parler de la conférence des océans, faisons un détour par la côte atlantique, mais pas au bord de l'eau. Nous sommes à Canéjan, à l'ouest de Bordeaux, à une cinquantaine de kilomètres des vagues de Lacanau, et c'est là que vient de débuter en bord d'autoroute un chantier pour créer une vague de surf artificielle. Des associations de défense de l'environnement ont attaqué le permis de construire devant le tribunal administratif. Mais en attendant, les travaux du premier surf park de France avancent. Lou Attard s'est rendu sur place.
Christine habite derrière le chantier et elle ne voit pas d'un bon œil l'arrivée du surf park.
Ça va tout détruire, on a une belle forêt. Il y a déjà toute la zone industrielle du côté de Solectron qui est bouffée par toutes les sociétés. Il faut garder, il faut préserver.
Sur le terrain, un premier trou a été creusé. Deux bassins à vagues sont prévus, l'équivalent de 5 piscines olympiques, d'après l'expert judiciaire. Un coût écologique pour la région, selon Vanessa Balchi, membre de la Surf Rider Foundation.
On ne peut pas accorder 20 millions de litres d'eau à un promoteur privé pour une activité commerciale et lucrative, alors qu'on nous demande en même temps une sobriété hydrique et énergétique pour faire face et pour nous adapter à la transition écologique nécessaire.
Dans l'attente de la décision du tribunal, Édouard Algaillon, un des porteurs du projet, se satisfait de l'avancée des travaux.
On considère qu'on a déjà perdu 2 ans sur le projet avec l'opposition. C'est un préjudice. Et aujourd'hui, on est confiant sur la suite, sur le jugement qui sera fait au tribunal. Le fait que ce soit nouveau, c'est vrai que souvent ça peut effrayer ou ça peut interroger.
Après une dizaine de projets de vagues artificielles avortées, le surf park de Canéjan est le premier à obtenir un permis de construire.
Reportage ici Gironde, les vagues, les vrais et les océans au cœur de la conférence de l'ONU qui s'est ouverte ce matin à Nice, dans une ville bouclée, conférence co-organisée par la France et le Costa Rica, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents, ils doivent prendre des engagements pour préserver les océans du globe menacés par le réchauffement climatique, la surpêche ou encore la pollution plastique. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Inter. Emmanuel Macron a donné le ton ce matin.
Oui, sous un immense chapiteau blanc en dur installé sur le vieux port de Nice avec vue sur les voiliers, les délégués de 120 pays ont été accueillis par un chant polynésien en hommage aux océans.
Mare tapoué.
Emmanuel Macron livre ensuite un plaidoyer pour la protection des océans en ébullition, dit-il, très applaudi quand il défend un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins, taclant au passage Donald Trump qui veut autoriser ce type d'extraction au fond de l'océan.
C'est de l'obscurantisme que de faire de l'exploitation avant d'avoir commencé l'exploration. Et donc le moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins est une nécessité internationale. Et je le dis ici avec force, les abysses ne sont pas à vendre. Et pas plus que le Groenland n'est à prendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre.
Applaudissements aussi quand le président brésilien Lula confirme qu'il va ratifier le traité sur la haute mer pour instaurer des règles dans cette immense zone de non-droit.
Au Brésil.
Il faut 60 ratifications pour que ce traité sur la haute mer adopté il y a deux ans entre en vigueur. D'après l'Élysée, on en est à 50 signatures et à une quinzaine de promesses, ce qui fait dire à Emmanuel Macron à la tribune, c'est gagné.
Sandy Dauphin, je reviens vers vous dans une minute en direct de Nice, mais pour réagir aux propos d'Emmanuel Macron ce matin, mais aussi à ses promesses, je voudrais qu'on écoute le doute des organisations non gouvernementales. L'annonce notamment du gouvernement français d'une limitation du chalutage de fond dans ces aires marines protégées, notamment laisse sceptique Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'ONG Bloom.
On a regardé les cartes, c'est pas du tout une avancée puisqu'en réalité ces zones qui vont être annoncées comme étant interdites au chalutage de fond sont déjà des zones dans lesquelles il n'y a pas de chalutage de fond puisqu'elles sont soumises à une interdiction du chalutage au niveau européen. En fait ce sont des zones qui sont profondes, au-delà de 800 mètres de profondeur, donc la France va simplement dans des zones dans lesquelles on a déjà interdit le chalutage de fond dire ces petites zones, on va désormais les appeler protégées pour que ça rentre dans un pourcentage d'aires marines protégées. Pour que les annonces soient réellement ambitieuses, il faudrait déjà que ce soit 30% sans chalutage, que ce soit du chalutage de fond ou du chalutage en surface ou dans la colonne d'eau. Et surtout, il faudrait que ce soit dans des zones nouvelles.
Sandy Dauphin, on vous retrouve en direct de Nice. La France fait-elle moins bien que d'autres pays? Je pense au Royaume-Uni qui a 40% de ses eaux en aires marines protégées.
Oui, Londres projette d'étendre l'interdiction du chalutage de fond à plus de la moitié de ses aires marines protégées. Ça fait environ 30 000 km². Par comparaison, la France annonce que fin 2026, cette technique de pêche sera interdite dans 4% des eaux hexagonales, soit 15 000 km². Mais selon le ministère de l'Environnement, ça fait beaucoup plus si l'on inclut les Outre-mer. Mmh. On arrive alors à 1,5 million de km² interdits au chalutage. Mais vous l'avez entendu, il y a bataille de chiffres avec les ONG.
Merci Sandy Dauphin à Nice avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Là, tout s'est joué en mer Méditerranée. La nuit dernière, à une soixantaine de kilomètres au large de Gaza, le bateau humanitaire Madeleine, qui faisait route vers le territoire, a été intercepté par l'armée israélienne. Ses occupants entendaient dénoncer le blocage de l'aide par Israël et parmi eux, six Français, dont l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, mais aussi la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Bonjour Michel. Paul.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Les Israéliens conduisent en ce moment les passagers du bateau vers Israël avant de les expulser, c'est le programme.
Oui, les 12 militants pro-palestiniens n'ont toujours pas rejoint la terre ferme après l'arraisonnement de leur voilier la nuit dernière. Leur bateau, le Madeleine, est remorqué et il fait route vers le port d'Ashdod qui se trouve tout juste au nord de la bande de Gaza. Il devrait y accoster dans les heures qui viennent. Un arraisonnement totalement illégal pour l'ONG qui a affrété l'embarcation, qui affirme qu'il s'est produit dans les eaux internationales au large des côtes de Gaza. Alors, les 12 passagers du bateau seront accueillis par un petit groupe de manifestants pro-palestiniens à leur arrivée à Ashdod. Ils seront ensuite remis aux mains de la police israélienne et aussitôt transférés à l'aéroport international Ben Gurion, proche de Tel Aviv. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a demandé que le film des événements du 7 octobre 2023 leur soit projeté avant leur expulsion. Et en principe, donc, ce soir ou demain matin, ils devraient être rapatriés. Ce sera d'ailleurs la seconde procédure de ce type en l'espace de quelques mois pour l'eurodéputé Rima Hassan.
Merci Michel Paul en direct de Jérusalem pour ces dernières informations. Alors le président de la République Emmanuel Macron a réagi ce matin à cet arraisonnement. Il demande à Israël de permettre le retour des ressortissants français dans les plus brefs délais. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot envoie le même message au micro de Julien Nenny.
Nous avions d'ailleurs alerté les membres de cet équipage, ou en tout cas les ressortissants français, sur les risques auxquels ils s'exposaient. Puis depuis l'arraisonnement de ce navire par les autorités israéliennes, nous avons demandé à pouvoir exercer ce que l'on appelle la protection consulaire, c'est-à-dire la protection par les agents du consulat français sur place vis-à-vis de nos ressortissants. Nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux dès qu'ils rentreront sur le territoire israélien pour pouvoir leur permettre de rentrer dès que possible sur le territoire national.
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui s'exprimait depuis le sommet des océans à Nice. Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, lui, aurait souhaité qu'Emmanuel Macron aille ce matin plus loin dans sa réaction.
C'est très bien, mais il n'a rien à dire sur l'opération elle-même. Il n'a rien à dire sur le fait que l'armée israélienne, en toute illégalité, est venu intercepter, arrêter et kidnapper ce bateau dans les eaux internationales. Il n'a rien à dire sur le fait que l'armée israélienne vient d'empêcher l'accès d'une partie de l'aide humanitaire qui était destinée à la population gazaouie. Je trouve ça non seulement un peu court, mais totalement scandaleux. Et je crois que le président de la République doit, pour une fois, faire preuve d'un petit peu de courage, d'un petit peu de détermination. On attend de la voix de la France sur la scène internationale, que ça soit une voix de référence.
Le député insoumis Manuel Bompard au téléphone de Laurence Perron. Le parti annonce un rassemblement ce soir de soutien au navire Place de la République à Paris, quand le député Rassemblement National Philippe Ballard accuse, lui, l'eurodéputé insoumise Rima Hassan de se servir de son mandat parlementaire pour faire de la provocation. Fin de citation. Le RN, justement, qui un an jour pour jour après sa victoire aux élections européennes, 31% des voix, a convié en France des figures de l'extrême droite européenne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le vice-président du Conseil des ministres italien Matteo Salvini ou encore le leader du parti espagnol Vox Santiago Abascal. Des personnalités de premier rang donc autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais pas n'importe où, à Mormant-sous-Vernisson, une centaine d'habitants dans le département du Loiret, où vous vous trouvez donc, Élodie Forêt, c'est là que se déroule ce rassemblement. À quoi ça ressemble ?
Eh bien, ça ressemble à une grande fête champêtre, ultra sécurisée, énormément de gendarmes avant d'arriver sur le lieu du meeting. Ici, des champs à perte de vue, des tracteurs, des hangars en tôle, des chapeaux de paille. Image d'Épinal de la campagne française pour accueillir les alliés européens dont les drapeaux sont distribués à l'entrée aux militants.
Le seul qui manque, c'est le drapeau italien. Ils en avaient plus. Donc, il y a l'Espagne, il y a le Portugal. La Grèce.
Christine énumère les pays un peu plus en difficulté quand il s'agit de mettre un nom sur tous ces alliés qui défilent depuis une petite heure sur scène.
Oui, je connais les noms, mais je ne les connais pas autrement. Hein.
Visage le plus connu peut-être le Premier ministre hongrois Viktor Orban, que David, venu de Belfort, n'apprécie guère.
Il est assez intolérant, je suis quelqu'un de tolérant. Vous me direz, j'ai rien à faire ici, je suis tolérant, mais bon, voilà. Voilà, c'est quelqu'un d'assez intolérant, donc c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément.
Viktor Orban qui s'apprête à monter sur scène. Avant lui, déjà, se sont enchaînés des discours identitaires, ultra-conservateurs, promotion de la famille traditionnelle. Les médias sont hués. Dans quelques instants, Marine Le Pen et Jordan Bardella prendront à leur tour la parole. Le tandem français, évidemment, très attendu par les militants.
Oui, on comprend, Élodie, que le RN a envie justement de mettre en scène ce tandem qui a été malmené ces derniers mois.
Oui, en une année, le RN est passé d'un ticket limpide, Marine Le Pen, candidate à l'Elysée, Jordan Bardella à Matignon, à une équation complexe, un impensé devenu possible, l'empêchement de Marine Le Pen en 2027. Alors oui, désormais, tous les discours du tandem sont scrutés, disséqués. Quelle chorégraphie adopter quand l'enjeu pour Marine Le Pen est de ne pas se démonétiser, pour Jordan Bardella de ne pas apparaître trop pressé. Un tandem qui, aujourd'hui entouré d'alliés laudateurs, préfère jeter un œil dans le rétroviseur plutôt que l'avenir incertain, se féliciter de la victoire passée.
Élodie Forêt en direct de Mormant-sur-Vernisson, département du Loiret, avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. En réaction, la gauche et le parti Renaissance organisent aujourd'hui deux contre-rassemblements. L'un a lieu à Montargis pour la gauche, avec des élus et des représentants syndicaux, comme les patronnes de la CGT et de la CFDT. L'autre à Amilly, pas très loin. Là, c'est pour le parti présidentiel, avec quelques élus. L'extrême droite européenne qui regarde avec attention ce qui se passe en ce moment aux États-Unis dans la lutte contre l'immigration illégale. Le président Donald Trump a en effet déployé près de 2000 membres de la garde nationale dans la ville de Los Angeles. Tout cela pour s'opposer aux manifestants qui ces derniers jours voulaient empêcher les arrestations d'immigrés menées par la police fédérale. D'habitude, aux États-Unis, la garde nationale est mobilisée à la demande des États et pas à la demande du président, d'où la polémique. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Il y a encore eu des affrontements hier soir.
Oui, des affrontements, Jérôme, qui se sont poursuivis tard dans la nuit. La police de Los Angeles a indiqué avoir arrêté en deux jours au moins 56 personnes. Trois de ses membres ont été légèrement blessés. Mais au-delà de ces affrontements plutôt localisés, ce qui se joue, c'est une forme de revanche prise par Donald Trump contre cet État de Californie qu'il déteste et qui refuse d'appliquer ses lois en matière d'immigration. La Californie, comme la ville de Los Angeles, se considère comme des sanctuaires protégeant les migrants.
Alors, au cœur du conflit, il y a donc cette décision de Trump d'envoyer la garde nationale sur place. Qu'est-ce que c'est la garde nationale? C'est l'armée? C'est la police?
Alors, c'est l'armée. Et c'est bien là tout le débat. Hein, parce que traditionnellement, vous l'avez dit, ce sont les gouverneurs qui demandent le soutien fédéral en cas de crise. Et là, Donald Trump l'a fait de façon unilatérale. C'est une première en 60 ans. Normalement, une loi qui date de 1878 interdit l'utilisation de soldats sur le plan intérieur pour des missions dévolues à la police, sauf si la loi fédérale ne peut plus être appliquée en raison d'un défi sécuritaire et politique grave. Or, rien dans les événements de ces derniers jours à Los Angeles ne relève de ce cadre d'exception. De leur côté, certains observateurs accusent le président d'exploiter ces événements sur le plan politique pour détourner l'attention de sa spectaculaire séparation d'avec Elon Musk ou encore mettre un peu plus la pression aux sénateurs républicains pour qu'ils entérinent son train de dépenses, le Big Beautiful Act, qui doit entre autres renforcer les moyens de la sécurité intérieure en mettant ses élus républicains face à un choix, être du côté de l'ordre ou de celui des émeutiers.
Merci Virginie Pironon. La Russie, elle a lancé la nuit dernière une attaque record de drones sur l'Ukraine. Près de 479 appareils explosifs selon l'armée ukrainienne qui dit les avoir interceptés quasiment tous. L'échange de prisonniers et de corps de victimes de la guerre entre les deux pays qui devait avoir lieu ce week-end est attendu dans le courant de la semaine.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Et revoilà le débat sur l'emploi public en France. Emmanuel Macron, on s'en souvient, avait promis de diminuer le poids de la fonction publique lors de son élection en 2017, avant d'y renoncer quelques années plus tard. Mais face à la volonté du gouvernement de faire des économies, 40 milliards d'euros en moins, les ministres de l'économie et des comptes publics ont tous deux annoncé ce week-end, alors l'un qu'ils voulaient baisser le nombre de fonctionnaires et l'autre que leur nombre avait augmenté. Ce qui est partiellement vrai, voilà pourquoi on a besoin de vous, Luc Chemla. Bonjour Luc.
Bonjour.
Service économie de France Inter. L'emploi public en France, qu'est-ce que ça représente?
Eh bien très précisément 5,8 millions d'agents, chiffre le plus récent de l'INSEE, basé sur 2023. Si on prend juste cette donnée, déjà sur un an, oui, le nombre d'emplois publics a augmenté. Mais voyons bien plus large. D'après Fipeco, une association qui analyse les finances publiques, les effectifs de la fonction publique ont bondi de 23% entre 1997 et 2022. Maintenant, regardons dans le détail. Si on prend l'ensemble de ces emplois, l'immense majorité sont des fonctionnaires et près d'un quart des contractuels. Et là, la tendance est différente, explique Émilien Ruiz, historien à Sciences Po, spécialiste de la fonction publique.
Depuis le milieu des années 2010, on a de plus en plus de contractuels et de moins en moins de fonctionnaires. Dans l'État, par exemple, en 2022, on avait un nombre de fonctionnaires qui avait diminué de 0,2%, alors qu'on avait un nombre de contractuels qui avait augmenté de 3,6%. Donc on avait une légère hausse du nombre des agents de l'État qui était intégralement portée en réalité par une hausse des contractuels, là où les fonctionnaires diminuaient.
Situation due notamment à une crise d'attractivité dans la fonction publique, explique l'historien. Donc augmentation du nombre d'agents, oui, mais à mesurer tout de même.
Alors pourquoi ce nombre a-t-il augmenté?
Eh bien les raisons sont multiples, mais l'emploi public est le reflet de choix politiques, analyse Émilien Ruiz.
À partir du moment où on a commencé, à partir des années 70, à se préoccuper de questions environnementales, on a créé des administrations et des structures. À partir du moment où on décide d'avoir une politique de sécurité publique ou d'avoir une politique liée à la petite enfance, etc., etc., bien forcément, on observe les augmentations d'effectifs.
Et surtout que la population évolue, les besoins aussi, ce qui peut amener à un élargissement des missions.
Merci Luc Chemla pour ces explications. Salariés du privé comme du public qui font face aux mêmes difficultés pour se loger face à la remontée des taux d'intérêt. Eh bien, votre employeur peut vous aider. Il peut financer votre crédit immobilier. Ce dispositif s'est même ouvert aux entreprises privées en 2022. Mais ce sont toujours aujourd'hui essentiellement des entreprises publiques qui y ont recours. Des députés aimeraient que ça change. Marie Maheu s'est rendue dans les locaux d'Iroco à Paris. C'est une société de gestion de fonds qu'il a mise en place pour ses salariés.
Sur son téléphone, il fait défiler une vidéo de sa maison dans le Val d'Oise.
Là, c'est mon coin bureau où je télétravaille. Ici, c'est la chambre de ma fille. Et ici, c'est la chambre pour m'accompagner, moi.
Une petite partie des 120 mètres carrés dont il est désormais propriétaire avec sa compagne, grâce au prêt subventionné par son employeur. Ce manager d'une équipe de développeurs a sauté sur l'occasion.
Ça nous fait à peu près économiser 200 euros par mois sur 25 ans. Donc, c'est quand même pas négligeable.
On a quand même beaucoup de turnover actuellement. C'est comme ça partout. Hein.
Hélène est responsable des ressources humaines chez Iroco.
On a du mal à faire coïncider le lieu de travail et le lieu d'habitation, surtout dans une ville comme Paris. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. La résidence principale en est une belle, puisque finalement, on rentre un peu dans la vie privée du salarié. Et du coup, il y a une relation qui se noue entre le salarié et l'employeur.
Pourtant, seule une trentaine d'entreprises du privé ont eu recours à ce dispositif parce qu'il coûte cher, considéré comme un avantage en nature.
Il est taxé à 50 et quelques pourcents.
La députée socialiste Valérie Rossi et deux autres collègues d'Ensemble et de la droite portent une proposition de loi pour le faire passer à 20%.
En fait, tout le monde serait gagnant. Le salarié, l'entreprise et aussi l'État, parce que plus il y a de prêts, plus il y a de frais de mutation pour les collectivités, etc., etc.
Le texte transpartisan est déjà soutenu par une soixantaine de députés.
Reportage Marie Maheu à Strasbourg, un peu plus d'un mois après une première dégradation. L'emplacement de l'ancienne synagogue de la ville a été à nouveau vandalisé hier soir. Selon le CRIF d'Alsace, le Conseil représentatif des institutions juives, il s'agit d'un homme en état d'ébriété qui a vidé le contenu d'une poubelle sur la stèle. Cet homme a été interpellé, selon le préfet de la région Grand Est. Dans l'Isère, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, la vaste opération de secours lancée hier pour récupérer les spéléologues bloqués sous terre. Cette opération a finalement été couronnée de succès. L'effondrement de blocs de pierre empêchait leur retour à la surface. L'un de ces spéléologues avait même été blessé au bras et le dernier a pu être extrait ce matin. Précision d'Antonin Kermen.
Il y avait quatre spéléologues dans cette grotte située sous la dent de crawl lorsqu'ils ont été surpris par un éboulement. Expérimentés, ils ont eu les bons réflexes. Deux sont restés avec le jeune homme de 25 ans blessé au bras et en partie enseveli. Le quatrième est remonté à la surface pour donner l'alerte. Comme toujours dans ce cas-là, un important dispositif de secours a alors été déployé. Pompiers spécialisés, gendarmes et policiers, médecins et les membres de l'association Spéléo Secours Isère. En tout, plus de 100 personnes mobilisées. Une fois la victime rejointe dans la soirée, ses deux collègues ont été extraits de la grotte. La remontée du blessé a commencé vers 2h30 cette nuit et s'est achevée un peu après 7h. Laurent Simplicien est le secrétaire général de la préfecture de l'Isère.
Elle a été dégagée sur le coup de 22h-23h, menée sur un point chaud pour faire un bilan médical. Et ensuite, il convenait de faire le choix du matériel qui permet de le remonter, c'est-à-dire une demi-civière qui a permis de l'acheminer finalement, de le remonter plus tôt que 8h, puisqu'il est sorti, comme vous l'avez indiqué, un peu après 7h.
Le spéléo a été transporté au CHU de Grenoble pour être soigné, mais malgré la fatigue et la blessure, son état de santé est jugé rassurant, indique la préfecture.
Explication signée ici Isère. Des sommets d'audience pour un match qui est entré sans attendre dans la légende du tennis. Jusqu'à 9,5 millions de téléspectateurs hier avant 21h pour regarder la balle de match de la finale de Roland-Garros, remportée en 5-7 par l'Espagnol Carlos Alcaraz face à l'Italien Yannick Sinner. Alors depuis hier, les superlatifs pleuvent sur ce duel, mélange de suspense, de rebondissements, de coups d'anthologie, le tout dans un contexte d'immense respect et de fair play entre les deux jeunes joueurs. Bonjour Paul-Henri Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous étiez notre consultant durant cette quinzaine. Ce match, alors le débat fait rage hein, depuis hier soir, ce match est-il le plus beau qu'il vous ait été donné de voir sur un court ?
Alors, c'est difficile de répondre parce que j'ai eu la chance d'assister à beaucoup, beaucoup de matchs et à des duels aussi d'anthologie entre Rafael Nadal, Federer et également Novak Djokovic. Après, je pense qu'on peut dire que c'était une des finales de Roland-Garros les plus belles, avec le plus de suspense, c'est sûr. Là, il y a eu une dramaturgie assez incroyable pendant 5h30. Nous, on a commenté à la radio avec Fabrice Agral, c'était assez incroyable. Mais c'est vrai qu'on est passé par des scénarios complètement fou, mais ça restera une finale historique, ça c'est sûr.
L'Américain John McEnroe, qui s'y connaît très légèrement en tennis, sous-entend depuis hier soir que ça jouait mieux qu'aux plus belles heures des Nadal, Federer et Djokovic. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors là, je suis plutôt partagé. Ça joue très très bien, ça n'enlève rien du tout à la qualité de jeu de la part des deux joueurs, qui sont deux joueurs mais fantastiques, hors normes. D'ailleurs, on pensait pas qu'on allait retrouver un tel niveau de jeu après l'ère Nadal, Djokovic ou Federer. Mais de dire que ça joue mieux que l'ère Nadal, Djokovic ou Federer, je suis pas sûr. Je trouve que les joueurs
d'avant... Pourquoi ? Parce qu'on peut pas comparer les époques ou parce
c'est difficile de comparer les époques, parce qu'encore, ils sont jeunes, encore Sinner a 23 ans, Alcaraz 22, alors même si on a un qui a 5 titres du Grand Chelem, l'autre 4. Mais ensuite, voilà, par rapport à ce qu'ils ont fait... ils sont pas encore de la trempe des trois légendes vivantes de notre sport, même si on a deux aujourd'hui qui sont à la retraite.
Mais en termes de tennis, qu'est-ce qui leur manque en termes de jeu?
En termes de tennis, alors il y a un contraste quand même entre Alcaraz et Sinner, parce qu'Alcaraz est un joueur qui a pris un peu le meilleur de Federer, le meilleur de Nadal, donc c'est un joueur qui est très plaisant à voir jouer, qui sait tout faire. Sinner se rapproche plus du côté de Djokovic. Il leur manque pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Et quand on assiste à un match comme hier, on prend un plaisir immense à le regarder. Je trouve que pour l'instant, il y a juste un petit peu plus d'inconstance dans leur tennis que les trois autres. Mais c'est sûr que quand les deux joueurs sont vraiment bien, à leur meilleur niveau, ils arrivent à prodiguer un niveau de jeu mais sublime, fantastique.
Si vous deviez garder un seul point, un seul moment de cette finale, quel serait-il ?
C'est dur aussi parce que il y en a eu beaucoup. Alors, je vais utiliser un joker. Je vais en choisir deux. Une balle de match de Sinner quand il pensait qu'à 5-3, 30-40, que le coup droit d'Alcaraz allait sortir, il s'est vu gagner. Et je pense que c'est ce qui lui a fait commettre la faute ensuite en coup droit. Et ensuite, bien évidemment, la balle de match d'Alcaraz quand il s'écroule ensuite sur le court, parce qu'il revient de nulle part. C'est un vrai miracle ce qui s'est passé. Ça montre que l'Espagnol a une résilience hors du commun et que jusqu'au bout, il y a cru, il n'a pas lâché et il a réussi à retourner le match.
Merci à vous, Paul-Henri Mathieu, d'avoir été avec nous dans ce 13-14. Je vous dis tout simplement à l'année prochaine. On espère prendre autant de plaisir en votre compagnie. 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. On verra que le mercure va beaucoup grimper ces prochains jours, notamment dans le sud. Puis à partir de 13h30, la présidente du tribunal de Charleroi en Belgique est notre invitée. Elle a contribué à l'arrestation et à la chute du violeur en série Dino Scala en 2018. Elle nous dira ce qu'elle attend de ses dernières mises en examen pour 13 nouveaux cas en France et en Belgique. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, les petites lignes d'avion, elles coûtent cher, mais elles desservent des territoires enclavés. Notre feuilleton nous amène à bord du Paris-Aurillac. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi, notre linguiste, et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Un Mathieu vrombissant aujourd'hui.
Cette semaine, cap sur le bitume, mais pas n'importe lequel, celui du circuit des 24 heures du Mans. Parce qu'au-delà du rugissement des moteurs, il y a les mots du Maine qui résonnent tout en douceur, ou presque.
Et avec vous, Frédéric, un chanteur.
Un chanteur que vous aimez beaucoup, je crois, Jérôme. Mm-hmm. Il s'agit d'Armand Méliès, qui vient de sortir son 10e album. Et avec lui, c'est un titre des Doors que nous écouterons. Les Doors, l'un des groupes qui lui ont donné envie de faire de la musique.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Mission décarbonation avec EDF.
La décarbonation des bâtiments est cruciale pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Nathalie Levavasseur, chargée d'affaires énergétiques chez EDF, nous propose une solution de pilotage intelligent du bâtiment.
Oui, cet outil digital permet de piloter à distance et simplement le chauffage ou la climatisation d'un bâtiment tertiaire. On adapte automatiquement la bonne température au bon moment, tout en réalisant des économies d'énergie.
Merci beaucoup Nathalie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Je vois du soleil, Madame Latsou.
Oui, bah jusqu'à là, une chance sur deux. Hein.
Je vois des économies, beaucoup d'économies.
Ah, mais oui, bien sûr, je viens de faire installer un carport solaire à Kenna. Et avec lui, je suis connecté pour faire des économies d'énergie.
Je vois.
Mais c'est tout vu, madame, c'est Akena.
Véranda, pergola et carport sur...
Akena.com.
Livre Inter 2025, un perdant magnifique de Florence Sévos. Par les yeux d'une adolescente, le lien inoubliable avec son beau-père fantasque, excessif, mais qui a su les aimer, sa sœur et elle.
À l'âge où on est vulnérable, quand un adulte pose un regard sur vous, je te vois comme tu es, je te reconnais en quelque sorte, c'est infiniment précieux.
Les jurés du Livre Inter ont été touchés au cœur par la beauté de la langue, la subtilité des sentiments. Un livre qui nous parle. Un perdant magnifique de Florence Sévos, Livre Inter 2025.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est une belle journée d'été aujourd'hui.
Les hautes pressions vont dominer ce début de semaine. Les trois quarts sud du pays sont déjà sous le soleil, avec quelques nuages sur le relief cet après-midi, voire une averse sur le sud des Alpes. Le Mistral reste sensible en vallée du Rhône, mais baisse progressivement. Les températures, elles, sont en hausse. Elles sont souvent élevées pour un début juin, même chaudes de la Nouvelle-Aquitaine à la Méditerranée, avec 28 à 32 degrés entre Bordeaux et Marseille. On attend plutôt 25 à 27 degrés à Nantes, Orléans, Lyon, ou Clermont. Et l'ambiance est plus tempérée dans le nord. L'influence de l'océan se fait encore ressentir, mais les vents d'ouest ont nettement faibli. Le temps sera nettement plus clément que ces jours-ci. Sous un ciel variable, parfois encore nuageux, mais sans averse, on attend 20 degrés de Caen à Lille, 23-24 de Rennes à Strasbourg.
Par contre, ça va vraiment chauffer, Olivier, ces prochains jours.
Alors déjà, demain, on va dépasser régulièrement les 30 degrés sur les deux tiers du pays, et puis on attend mercredi un pic de forte chaleur, 30 degrés jusque dans l'intérieur de la Bretagne, sur tout l'ouest de forte chaleur jusqu'à des pointes dépassant les 35. Les fortes chaleurs s'étendront ensuite en fin de semaine vers l'est et le sud. On aura peut-être des orages dans le nord-ouest.
Une chaude semaine donc qui s'annonce. Merci Olivier Proust, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Martine Michel.
Bonjour Jérôme Cadet.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Merci d'être venu jusqu'à Paris, vous qui êtes la présidente du tribunal judiciaire de Charleroi en Belgique, pour parler ensemble de l'affaire Dino Scala, le violeur en série condamné en 2022 par la Cour d'assises du Nord à 20 ans de réclusion criminelle pour 54 viols, agressions sexuelles ou tentatives. C'est le violeur en série qui a fait le plus de victimes en France. Il a fait des victimes en France, mais aussi en Belgique, et vous avez été l'une de celles qui ont permis son arrestation en 2018. Vous étiez alors juge d'instruction et nous vous avons invité car cette affaire a rebondi il y a quelques semaines avec la mise en examen de Dino Scala pour 13 faits de violence sexuelle supplémentaire. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui souhaitent vous interroger, qui souhaitent être avec nous, qui ont des questions peut-être à la lumière des lectures des articles de presse ou du visionnage de séries ou de documentaires qui ont pu être réalisés sur cette affaire hors norme. Vous passez également, évidemment vous en avez l'habitude, via l'application Radio France. Martine Michel, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer dans quelles conditions et à quel moment vous vous êtes intéressé pour la première fois à cette affaire de viol en série autour de la Sambre ? Je rappelle que la Sambre, c'est cette rivière qui coule entre la France et la Belgique, entre Charleroi et Maubeuge.
Oui, c'est exact. Et donc, à l'époque, je suis juge d'instruction, je le suis toujours, parallèlement à mes fonctions, vous l'avez rappelé, de management au niveau du tribunal de Charleroi. Et je suis juge d'instruction, plus particulièrement le 30 mars 2006, quand le parquet me saisit d'une agression particulièrement violente. Il s'agit d'une jeune dame qui, chez elle, va se faire agresser par quelqu'un dont on ignore tout à l'époque et qu'il s'avéra être Dino Scala. Elle est chez elle, elle se prépare le matin, son mari sort de son immeuble et il va en profiter pour rentrer dans la maison sans se faire voir et agresser de manière extrêmement violente cette jeune dame. Elle a entre 20 et 30 ans, si ma mémoire me sert, et elle se fait agresser. Il est muni d'un couteau, il est violent, il la baïonne, il la ligote, il la viole et il la laisse effrayée, dans ce comportement effrayant qui est le sien. Et ce dossier m'interpelle dès le départ, d'autant plus que les enquêteurs, très vite, vont me dire que ce n'est peut-être pas le seul fait en Belgique, que deux ou trois autres faits les années précédentes, en 2004 et en 2005, leur font penser au même modus operandi. Et la même description d'auteur, déjà, interpelle les enquêteurs. Et et la violence du fait pour lequel je suis saisie, et le fait qu'il y a peut-être d'autres violences qui sont faites les années précédentes, est très interpellante. Ça interpelle d'autant plus les enquêteurs qu'ils vont prendre contact. La ville d'Erquelines jouxte la frontière belge, hein, belgo-française, et donc ils prennent contact avec leurs homologues français, et plus particulièrement le SRPJ de Lille, et très vite on va leur dire qu'en France, là ce n'est pas deux ou trois faits, ce qui est déjà interpellant en soi, notamment dû à la violence et puis déjà à la multiplicité, mais là qu'il y aurait des dizaines de faits.
Là, on est après 2006.
Donc, on est en 2006.
Toujours.
Et là, on parle déjà de dizaines de faits en France.
Mais ça veut dire que vous n'avez pas connaissance à ce moment-là de ces affaires en France. Parce que le premier fait qui a valu condamnation à Dino Scala, c'est 1988.
Oui.
Mais vous, quand vous êtes en poste en 2006, de l'autre côté de la frontière, vous n'avez pas connaissance finalement de ces viols en série qui ont été commis de l'autre côté de la frontière.
Alors, mes enquêteurs ont un contact avec les enquêteurs français et ils savent qu'il y a quelques faits, on parle d'une dizaine, dans des périodes 2002-2004 et 98-99, ces eaux-là. On n'est pas encore dans les années 80 et on n'a pas l'idée du nombre important de viols qu'il pourrait avoir à cette époque-là. Donc, à ce moment-là, les enquêteurs sont en contact avec les enquêteurs français. On sait qu'il y a peut-être, parce qu'on a évidemment des liens qui se font, des liens policiers, mais qui ne sont pas des liens concrets à ce stade-là. On sait qu'il y a peut-être un lien entre nos dossiers, mais à ce moment-là, on en est vraiment au tout début.
Vous êtes en contact, évidemment, vous travaillez avec les enquêteurs belges, la police belge, et vous me dites, les enquêteurs, ils ont quand même peut-être la prémonition qu'il y a une série en cours, que c'est un violeur en série. Or, on sait qu'en France, les enquêteurs ont mis beaucoup de temps à accréditer cette thèse. Pendant longtemps, les enquêteurs français ont dit, violeur en série, ça n'existe pas, en fait.
Oui, c'est peut-être le terme qui leur faisait peur, mais en tout cas, ce qu'on sait quand même dès le départ, alors peut-être pas tout de suite en mars 2006, mais très vite, c'est qu'il y a un ADN commun. L'ADN que je peux prendre sur la personne de la victime en 2006, en mars 2006, correspond à un ADN français d'une trace qui elle-même correspond à trois autres ADN. Donc dès le départ en 2006, on sait en tout cas qu'il y a quatre faits qui sont reliés
entre
eux.
Certitude qu'un même violeur agit.
Génétique, je vais dire.
Ouais.
Donc là, c'est quand même un élément extrêmement matériel. Et en Belgique, on a deux faits qui sont reliés de manière certaine aussi avec des traces matérielles, ce sont les traces de pas chaussées qui sont autour de la maison et dans les environs d'un endroit où une victime s'est fait agresser, là à l'extérieur.
Mais pendant 12 ans, vous ne parvenez pas à mettre la main sur ce violeur.
Alors en effet, moi je vais enquêter de 2006 à 2010 et on va y mettre beaucoup de moyens. Hein. Je vais dire, on va employer des techniques qui sont quand même des techniques qu'on n'emploie pas habituellement.
C'est-à-dire
au-delà des auditions, des descentes sur les lieux qu'on ne fait pas nécessairement dans des cas de viol, au-delà d'une étude des sciences comportementales faite par la police belge, d'un appel à témoins. À l'époque, on avait une émission de télévision, RTL pour ne pas la citer, qui reprenait les dossiers dans lesquels on n'avait pas d'auteur et qui demandait à la population de venir témoigner. Donc on a utilisé aussi, sur base d'un petit reportage, ce genre de témoignage.
Ça n'a pas donné de résultat ?
Aucun résultat. Et on a utilisé cette fameuse technique, hein, ce dossier est connu pour ça, de la géomatique. Donc c'est une technique très scientifique, hein. C'est un professeur de l'université de Liège qui applique cette technique, qui va sur base de données scientifiques, la distance entre les différents faits, la temporalité, il faut savoir en l'espèce ici que Dino Scala va agresser sa victime essentiellement le matin en hiver. Donc il y a une temporalité extrêmement
précise. La plupart des faits commis entre octobre et mars.
Exactement. Et deuxièmement, toujours, et vous l'avez rappelé, à des endroits bien particuliers, le bord de cette Sambre, hein, j'habite moi-même à Montigny-sur-Sambre, donc beaucoup plus bas que Erquelines. Mais donc cette Sambre était notre témoin, notre fil conducteur pendant toute l'enquête. Et donc je disais ça pour dire que de 2006 à 2010, on emploie énormément de moyens pour essayer de trouver l'auteur de ces faits cruels, hein, faut bien le reconnaître. Et en 2010, je me dois de reconnaître que j'ai tout employé et je dois clôturer ce dossier. Enfin, je demande en tout cas, c'est la procédure au parquet, de clôturer ce dossier en 2010. Et il va en effet falloir attendre 2018, donc 8 ans plus tard, pour qu'on me saisisse à nouveau d'un dernier fait. Puisque
des faits commis en Belgique.
Oui, retraverse la frontière, hein, parce qu'en attendant, bon, il reste en France et donc je n'ai plus de nouvelles particulières. Il retraverse cette frontière et il va agresser une jeune fille, cette fois-ci de 15-16 ans, hein, je crois que c'est 16 ans, si ma mémoire me sert. et il va à ce moment-là commettre quelques erreurs. Et puis, bon, on a un peu de chance, le maire de Herculina vient d'installer autour de la gare des caméras et on va visionner l'arrivée d'une voiture, une voiture qui va être identifiée par sa plaque d'immatriculation, en tout cas partiellement, et on va reconnaître cette voiture puisqu'elle a des traces d'accident. Je crois que l'avant droit est un peu abîmé, il manque un enjoliveur.
On a la plaque d'immatriculation de cette
en
voiture,
partie,
donc
oui.
On remonte jusqu'à l'identité de son propriétaire.
Alors, pas particulièrement, parce qu'en France, vous n'avez pas de registre des plaques d'immatriculation. Donc, la seule plaque d'immatriculation, et qui est partielle, je viens de vous le dire, ne suffit pas.
Mais avec la plaque d'immatriculation en France, on a le nom du propriétaire du véhicule.
En tout cas, nous, ça n'était pas possible à l'époque.
D'accord.
Je sais qu'il y avait eu un problème, mais elle était partielle, hein, je vous l'ai dit.
D'accord.
Donc, on procède plutôt via l'enquête qu'on avait faite préalablement et qui a quand même servi, puisque là, pendant 4 ans, on a travaillé beaucoup.
Tout ce que vous aviez déjà à
disposition. Tout ce qu'on avait comme élément, c'était le fait qu'il avait, et toutes les victimes le disent, une odeur particulière de mécanique ou d'essence, ou comme s'il travaillait dans un atelier. Et on va, sur base de cela, et sur base de la domotique qui dit qu'il doit être localisé dans la région de Haumont, demander aux Français de vérifier auprès des usines et des entreprises de la région de Haumont si on ne retrouve pas cette voiture, qui est très bien décrite, ce qui va être le cas. Et grâce à cela, on va pouvoir interpeller Dino Scala, prélever son ADN et faire les comparaisons nécessaires, mais extrêmement vite, je sais que les Français vont nous dire qu'il va déclarer, qu'il va passer aux aveux de tous les faits qu'il a commis, bien plus que ce qu'on a d'ailleurs, puisque c'est lui qui va indiquer aux enquêteurs quelles sont les victimes de ces gestes.
Et un témoin dira à ce moment-là, un homme qui le connaissait bien, je le cite, « S'il n'avait pas avoué, on n'y croirait pas ».
Je pense, parce qu'on a rarement eu maintenant, depuis l'affaire de Dino Scala, on a d'autres serial killers et violeurs, serial violeurs. Donc, mais c'est vrai que c'est très impressionnant, c'est très impressionnant par le type de profil de l'intéressé, c'est très interpellant par le nombre de victimes dans cette affaire.
Combien de victimes en Belgique ?
En Belgique, j'en ai 9. Donc c'est assez peu, évidemment c'est un chiffre, c'est horrible de pouvoir dire ça, mais par rapport au nombre français, mais donc on en a 9 en Belgique.
Ça veut dire que vous avez enquêté, instruit le dossier pour ces 9 victimes, ou bien que c'est la justice française qui a enquêté? Comment ça se passe dans ces cas-là, quand il y a des faits qui sont commis dans 2 pays différents?
Alors en l'occurrence, là nous avons eu un contact évidemment avec les Français, avec les magistrats français et avec les policiers français. On a fait ce qu'on appelle une équipe commune d'enquête entre les 2 pays. J'ai enquêté sur les faits qui étaient en Belgique et ma collègue se chargeait des faits français. Et nous avons décidé, quand j'ai eu terminé l'enquête concernant les faits belges, qu'ils seraient joints aux faits français pour qu'ils puissent être jugés par ses pairs, par la cour d'assises française, comme vous l'avez rappelé en 2022.
C'est-à-dire que la cour d'assises française a jugé des faits commis en Belgique.
Oui. On a rencontré les victimes belges et on leur a demandé un peu si c'était problématique pour elles,
ouais.
Parce que c'était on voulait être respectueux par rapport à toute la souffrance qui avait été la leur et ne pas rajouter un peu de la souffrance à tout cela. Et il faut savoir que ce sont des victimes qui habitent à la frontière, donc je veux dire le déplacement qu'elles devaient faire. On a veillé à ce que les droits dont elles bénéficiaient en Belgique, notamment d'être assistées, d'assistantes sociales et d'aide aux victimes, elles puissent en bénéficier en France, qui a été le cas. Et donc c'est comme ça qu'il était naturel qu'ils soient jugés chez vous.
Alors cette affaire n'est pas terminée, je l'ai dit, Dino Scala a été mis en examen pour 13 nouveaux faits le mois dernier. Est-ce qu'il y a des faits qui concernent la Belgique?
Alors non, il n'y a aucun fait en Belgique. Je n'ai pas connaissance de faits en Belgique pour lesquels on devrait réouvrir également une enquête. Les 13 faits dont vous me parlez, je le sais par la presse, sont exclusivement français.
Ça veut dire que dans votre pays, l'affaire est complètement terminée
aujourd'hui, sauf à ce que
des victimes se déclarent.
Victime ou bien qu'un élément concret, un ADN ou quelque chose revienne à la surface. Aujourd'hui, ce dossier est clôturé en effet chez moi.
Vous avez remarqué d'ailleurs, chez beaucoup de victimes que vous avez pu entendre, une sorte d'effacement de la mémoire. C'est-à-dire que le traumatisme du viol fait qu'elles ont poursuivi leur vie, fait leur vie, mais qu'elles avaient du mal à se souvenir de ce qui avait pu se passer lors de ces agressions par Dino Scala.
Oui, ce qui est très interpellant, c'est qu'en 2018, quand Dino Scala a été arrêté et qu'il est passé aux aveux, qu'il a donné certaines explications par rapport au viol dont ont été victimes les Belges, j'ai réentendu chacune des victimes belges, comme c'est le cas en France, donc j'ai voulu que ma procédure belge colle à la procédure française. Et j'étais très heureuse, vais-je dire, ou bien très fière de pouvoir leur annoncer qu'on avait enfin interpellé l'auteur des faits dont elles avaient été victimes. Et dans mon dans mon imaginaire, j'avais l'impression que ces victimes allaient être très heureuses de ce qui allait arriver. Et pas du tout. Le fait des années qui passent avait comme endormi cette souffrance. Je veux dire, elles avaient oublié, mais elles avaient endormi leur souffrance. Elles avaient même évolué dans leur vie privée. Elles s'étaient mariées. Pour certaines d'entre elles, elles n'avaient pas raconté la douleur qui était la leur et le drame qui avait été le leur. Et donc, je faisais revivre à nouveau cette souffrance. Et comme si le fait renaissait lors de mon interrogatoire en 2018. Et donc, on ne se rend pas compte de la souffrance, mais c'était une double souffrance, une victimisation à nouveau dans le chef des victimes belges quand je les ai entendues en 2018.
Dino Scala a violé pendant 30 ans, des dizaines de femmes ont été victimes sur un territoire qui au fond, et même s'il s'étend sur deux pays, est assez restreint, est assez limité. Certaines femmes l'ont vu, l'ont décrit assez fidèlement, et pourtant il a fallu 30 ans pour l'arrêter. C'est un échec. Est-ce que aujourd'hui encore vous vous interrogez là-dessus, sur comment il a pu poursuivre son entreprise criminelle pendant des dizaines d'années ?
Alors, je ne vais pas vous dire que c'est glorieux, évidemment, qu'il faille autant d'années. Et même en ce qui me concerne, c'est extrêmement frustrant en 2010, quand je clôture ce dossier, pour le réouvrir en 2018. Et en 2018, je ne suis pas très fière de voir qu'il ait fallu autant de temps. Mais on a quand même clôturé ce dossier et on a quand même arrêté l'intéressé. On a beaucoup travaillé dans ce dossier aussi. Donc, quand on fait le travail après avoir arrêté quelqu'un, on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire mieux. Oui. Et bien sûr qu'on aurait pu peut-être faire mieux. Mais en l'espèce, je pense qu'on y a mis tous les moyens. En tout cas, en Belgique, je ne vois pas très bien ce qu'on aurait pu faire de plus. Je ne pense pas non plus que c'est le fait que ça se soit chevauché entre la France
sur
et la Belgique.
Sur deux pays, oui.
Que ça ait pu entraîner certaines choses différentes. Alors, il est vrai que quand on, évidemment, on revoit le dossier à la lumière de l'arrestation de Dino Scala, on se rend compte que le portrait robot qui a été fait par la victime, la toute première victime de 2006, sous hypnose, est vraiment une photo de l'intéressé. Et ça, c'est interpellant, évidemment. Donc,
on a son visage depuis 2006.
On a son visage dessiné depuis 2006. Alors, en Belgique, on l'a beaucoup diffusé, notamment dans cette émission de télé dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la chaîne de télé radio télévision RTL, mais pas en France. En France, ça n'avait pas... Voilà, le système français n'avait pas voulu... que ce portrait robot soit diffusé. Maintenant, je dois aussi dire que lors de cette émission RTL, on a eu toute une série de témoins qui sont venus dire « c'était un tel, c'était un tel, c'était un tel ». J'ai entendu ces gens, j'ai pris leur ADN et c'était pas eux. Mmh. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même pouvoir aussi prendre du recul et ne pas tout critiquer à souhait. Quoi.
Merci Martine Michel d'avoir été avec nous, d'être venue jusqu'à France Inter aujourd'hui, présidente du tribunal judiciaire de Charleroi en Belgique. Si vous voulez aller plus loin, Sambre, radioscopie d'un fait divers, c'est l'enquête d'Alice Géraud chez Jean-Claude Lattès et évidemment un affaire sensible de Fabrice Drouel consacré à cette affaire du violeur de la Sambre. 13h45 sur Inter. C'est l'heure de notre feuilleton. Nous passons toute cette semaine sur une toute petite ligne aérienne. Elle relie Aurillac dans le Cantal à Paris-Orly. Une vingtaine de passagers seulement, en moyenne par vol, 2 allers-retours par jour. Fréquentation en baisse ces dernières années, mais c'est la possibilité pour ce territoire enclavé d'avoir une liaison rapide avec la capitale, très utile notamment pour le tissu économique local. Entre 150 et 200 euros le tarif du billet aller. Et on retrouve tout ce petit monde avec notre reporter Adrien Serrière dans le minuscule hall de l'aéroport.
Je suis arrivé à 6h30 et l'avion part à 7h05. Donc là, j'ai le temps de tranquillement de passer les contrôles et discuter. Et voilà. On va dire qu'on n'est pas à Paris où il faut être au moins une heure à l'avance. Ici, c'est plutôt une demi-heure. Voilà. Même les hôtesses, on va dire, il n'y a pas de souci pour que si on a un petit retard, elles nous passent un petit coup de téléphone pour savoir si on vient ou si on ne vient pas. Quoi. Le maximum que j'ai fait, c'est 15 minutes avant. Mais voilà, quoi. Après, il faut quand même respecter le travail de chacun.
Le vol Chalair 1505 à destination de Paris-Orly est prêt pour l'embarquement. Nous vous rappelons que...
Je me présente Pascal Comel. Je prends la ligne Aurillac Paris au moins, on va dire une fois, un aller-retour par semaine. Putain, mon cas de mon travail. Donc là, j'ai une mission pendant 4 jours en Alsace.
Qu'on se rende compte qu'il y a quoi d'autre comme moyen pour aller à Paris hein.
À Paris, il n'y a que le train, ou sinon la voiture. Et le train, bon, on a là pour 7h30. C'est pas viable par rapport à une activité professionnelle, puisqu'il faut une journée pour venir, une journée pour revenir. Et après, la voiture, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est 5h30, 6h. Et en plus, ça fatigue, et voilà.
Messieurs, dames, bonjour. Vous voyagez ensemble ? Non ? Que madame ?
Tout en cabine aujourd'hui.
garde avec
vous au pied de l'avion.
Je prendrai juste une pièce d'identité, madame, ou un passeport, ça ira. Hein.
Monsieur, bonjour.
Oui.
Est-ce que vous êtes enregistré ?
Non.
Bon, c'est pas grave, on est là pour ça. Moi, c'est Maxime. Je suis agent d'escale et agent de trafic pour l'aéroport d'Aurillac. Anciennement, j'étais sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Vous savez qu'ici, on a ce côté quand même proximité avec l'équipage et avec les passagers qu'on n'a pas dans un grand aéroport. On a certains passagers qu'on connaît qui voyagent régulièrement. Donc, il y a certains passagers qu'on va placer plus ou moins à l'avant ou à l'arrière de l'avion. On connaît un petit peu leurs habitudes et leurs préférences. Ça crée un petit lien qui est sympathique. Quoi.
Et voilà, monsieur.
Merci, bonne fin de journée.
Alors, j'appelle Philippe Matière, je dirige la société Matière qui fait des ponts métalliques qu'on construit en France, beaucoup sur Aurillac, sur le bassin de Figeac, et puis après qu'on exporte et qu'on construit dans le monde entier. 35 ans après ce que j'ai connu dans le wagon-restaurant du Capitole, là, qui faisait à l'époque Brive-Paris en pas tout à fait 3h30, on y retrouve une convivialité, un échange, et puis une gentillesse du personnel qui est extraordinaire, parce que les clients sont leurs clients. Et c'est pas tout à fait ça quand on est dans des grandes infrastructures. Dans les grands aéroports, on est au mieux un passager et parfois même un individu pour tout ce qui relève des contrôles sécurité. Ici, on est un client, voire un habitué, surtout un habitué d'ailleurs.
Je suis David Perrier, directeur général de l'agglomération d'Aurillac et directeur de l'aéroport. Aurillac, c'est un aéroport au milieu des champs et au milieu des montagnes. Les passagers qui fréquentent la ligne sont des passagers réguliers, notamment des chefs d'entreprise, mais pas que. Il y a aussi des personnels politiques, les députés, les sénateurs. Donc c'est vrai que tout le monde se connaît. C'est vrai que les agents qui travaillent à l'aéroport, ils travaillent depuis des années. Donc c'est un peu une ambiance familiale. C'est pas désagréable. Ça n'empêche pas que les contrôles de sûreté, notamment, soient quand même très rigoureux.
Feuilleton signé Adrien Serrière, la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h50. Nous sommes avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Mathieu, le départ de la célèbre course automobile, les 24 heures du Mans, sera donné samedi à 16h. Et vous vous intéressez aux mots de cette région, le Maine.
Et oui, Jérôme, parce que sous le rugissement des moteurs, il y a aussi des expressions qui carburent à l'ancienne. Que ce soit dans les paddocks ou aux abords des fermes qui bordent le circuit, on n'entend pas tout à fait le même français qu'à Paris. Et ça donne des phrases bien tournées, parfaites pour accompagner la course. Imaginez, le ciel se couvre tout d'un coup. Ici, on dira que le temps s'abernaudit. Et on continuera en précisant, il va choir une bonne air nappée. En gros, il faut s'attendre à une bonne saucée, comme on dirait drache, dans le nord. Et l'air nappé, quand elle tombe sur les virages de nuit, mieux vaut garder les deux mains sur le volant. Bon, si la pluie persiste, qu'un pilote doit rentrer au stand à cause d'un souci technique et qu'on voit les minutes s'égrener, eh ben là, tout le monde va soupirer « on n'est pas rendu ». Une expression très utilisée dans l'Ouest qui signifie « on en a encore pour un moment ». Parfait pour les arrêts interminables ou les pannes au petit matin. Et dans les stands, toujours, entre deux relais, si un mécano traînasse un peu autour de la voiture sans vraiment s'activer, on lui glissera gentiment. Dis donc, mais qu'est-ce que tu bouines ? Bouiner, c'est ne rien faire d'utile, bricoler dans le vide. Une activité très pratiquée, paraît-il, après 20 heures d'éveil et 3 cafés froids.
Justement, Mathieu, d'où viennent tous ces mots qu'on entend encore sur le circuit ou autour du Mans ?
Ils viennent d'un fond linguistique ancien, bien plus solide qu'on ne l'imagine, le gallo. Une langue régionale restée très proche du français d'avant, mais avec sa propre histoire, son propre accent et son propre carburateur lexical, si j'ose dire. Prenez par exemple l'adjectif « oxy ». En ancien français, ça voulait dire « mort », tout simplement. Ça vient du verbe « oxyre » qu'on croise dans les romans médiévaux quand un chevalier oxy son adversaire. Mais ici, dans le parler local, « je suis oxy », ça veut dire « je suis vanné, crevé ». Je suis à bout. Et croyez-moi, dans les paddocks, après une nuit blanche à gérer les ravitaillements ou les imprévus techniques, ce mot-là retrouve tout son sens. Autre régionalisme qu'on entend encore beaucoup dans la région, « benaise ». C'est une contraction ancienne de « bien » et « aise ». Être « benaise », c'est être « bien ». On l'est rarement pendant la course, mais à l'arrivée, quand tout s'est bien passé, ou autour d'un sandwich rillette cornichon entre collègues, là oui, on peut dire « on est benaise ». Et un dernier pour la route, bien typique du coin, sublé. Le mot vient du gallo, mais il se rattache à la même racine latine que notre verbe français, siffler. On suble sur le bord du circuit pour encourager un pilote, par exemple.
Vous nous décrivez en fait, Mathieu, un autre circuit, une sorte de 24 heures du français régional.
Exactement, parce que pendant que les voitures tournent à 300 km/h, il y a aussi ces mots du coin qui continuent leur course à leur rythme. Ils collent à la gomme, au cambouis et à la fatigue. Ce ne sont pas des restes du passé, ce sont des marqueurs d'appartenance, des clins d'œil, des petits points de reconnaissance entre ceux qui sont du cru. Ils font vraiment partie du paysage sonore, au même titre que les moteurs qui vesonnent. Ce joli verbe local qui imite le bourdonnement mécanique des voitures sur la ligne droite. Une langue qui gronde, qui vibre et qui, elle aussi, tient la route.
Merci Mathieu Avanzi. Et c'est 16h samedi pour le départ des 24 heures du Mans. De C'est la France. Ah, c'est une chanson avec vous, Frédéric Pommier. C'est le chanteur Armand Méliès que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro.
Il vient de faire paraître Ambrosia, son 10e album, superbe album. Et c'est des Doors qu'il a choisi de me parler, un groupe qu'il a découvert adolescent, découverte en deux temps. Tout d'abord à 15 ans, quand il est au lycée, là, il connaît quelques chansons. Puis, à 19 ans, il va voir le film The Doors, film d'Oliver Stone, qui relate l'histoire du groupe californien.
C'est en fait le film d'Oliver Stone, qui, pour le coup, n'est pourtant pas vraiment un chef-d'œuvre, mais qui, à l'époque, va me replonger un petit peu dans la musique des Doors. Entre-temps, j'ai découvert la guitare. Et je suis donc assez intéressé en fait par le côté technique de la guitare, par le fait de jouer avec une certaine agilité. Et en redécouvrant les Doors, en fait, je me rends compte que justement, il n'y a pas forcément besoin d'être un virtuose pour exprimer des choses très très fortes. Donc là, il y a vraiment eu une sorte de passion dévorante et j'ai découvert tous les disques un par un.
À partir du film donc ?
Oui, après la sortie du film, puisqu'il surtout a été très important, c'est la façon dont ça m'a ouvert en fait sur plein d'autres groupes. Et puis ça m'a aussi ouvert sur la philosophie, parce que j'avais vu que Jim Morrison faisait des citations de Nietzsche parfois, et donc je me suis intéressé un peu à Nietzsche comme ça. J'ai même débuté des études de philosophie que j'ai rapidement abandonnées. Mais voilà, c'était quand même important. Ça a ouvert aussi la porte de la poésie, parce qu'il citait Rimbaud, Baudelaire, Artaud. Voilà, c'est comme ça que j'ai ouvert ses premiers bouquins, parce que c'est des choses que je ne connaissais pas trop à l'époque. Et qui m'ont beaucoup marqué.
Morrison vous a ouvert à une partie de la littérature.
Exactement. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn up the light. Turn out the light, yeah,
yeah. Alors Frédéric, cette chanson c'est When the Music's Over, année de sortie 1967.
Soit 5 ans avant la naissance d'Armand Méliès, chanson de 11 minutes, l'une des plus longues des Doors.
La longueur elle-même du morceau sous-entend donc une sorte de transe comme ça qui est très séduisante et en tout cas m'a beaucoup marqué. Et puis il y a aussi deux choses très importantes dans ce titre qui m'ont marqué, c'est d'une part la voix de Morrison, très belle, très suave, mais aussi les cris qu'il fait parfois, qui ont pour moi été aussi quelque chose de très important, parce que quand on a 18 ans et qu'on singe Morrison dans sa chambre, c'est-à-dire qu'on joue un ou deux morceaux à la guitare et qu'on chantonne un peu,
ce que vous avez fait,
ce que j'ai fait, et qu'on se met comme ça à hurler un peu comme il le fait parfois, on se rend compte qu'il y a une certaine vibration qui peut naître de la musique, qu'on rentre un petit peu en résonance avec le monde quand on crie comme ça, que ça casse des barrières, que ça ouvre des portes. Voilà, donc ça, c'était déjà très important pour moi, la voix. Et puis ensuite, dans ce titre, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est le son du solo de guitare. Là, c'est le guitariste qui parle, mais il y a vraiment un son comme ça, très saturé, une saturation, mais qui crépite, qui devient un peu organique et qui peut aussi être comme une sorte de cocon dans lequel on aime bien se lover.
Comme une percée vers l'âme.
Exactement. Ou un retour aussi vers quelque chose de peut-être de la vie avant la vie, c'est-à-dire dans le ventre de sa maman. So when the music's over.
À la fin de ce long titre, Morrison chante « La musique est ta seule amie ». Est-ce qu'à un moment donné, c'est une phrase que vous avez pu vous dire ?
La musique n'est vraiment pas ma seule amie, mais par contre, c'est une amie très importante. La musique, ça m'a permis de sortir un peu de moi-même, de communiquer un peu différemment avec les gens, alors que j'étais parfois peut-être un petit peu sur la réserve.
Solitaire.
Solitaire, et puis timide, et puis un peu effacé, enfin, ces choses-là.
Vous avez l'impression, vous, que cette musique-là, elle vous a révélé un peu à vous-même ?
Complètement, complètement. Ça fait vraiment partie des artistes qui m'ont fait aimer passionnément la musique et qui m'ont vraiment donné envie d'en faire.
When the music's over, The Doors. C'était donc, Frédéric, le choix d'Armand Méliès.
Armand Méliès qui vient de sortir son 10e album, son titre, Ambrosia.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
On parle fake news avec vous aujourd'hui.
Oui. Des informations autour de l'écologie et du climat, il y a de quoi dire.
Et de plus en plus. À tout de suite.